Est-ce qu'il y a des questions peut-être à nos invités,
des remarques,
peut-être des précisions, parce qu'on a eu des exposés très forts.
Oui, oui.
C'est parce qu'on parlait de la censure, mais bon, du point de vue quand même de l'adulte, tout ce qui est évoqué. Et moi, ce qui me questionne beaucoup, je travaille aussi avec des publics plus jeunes, des fois de 15-18 ans, puis je travaille pas mal dans le 93, c'est la question de la censure. J'ai le sentiment, alors ça fait un moment que je travaille avec eux, mais j'ai trouvé qu'il y a quelque chose qui a changé sur le regard porté sur le monde, même le regard pas encore fini sûrement, hein, puisqu'ils n'ont pas encore fini, enfin ils sont sur le passage. Hein. Mais donc, des fois, je suis à un endroit particulier sur... enfin, Annie, tu parlais de perversion. Et de. T'as associé deux mots, perversion.
Paranoïa.
Et paranoïa.
À cause du fantasme d'immortalité.
Voilà, et c'est quelque chose que je ressens parfois maintenant aussi sur des jeunes personnes.
Oui.
Et ça me questionne beaucoup, voilà.
Et que tu peux donner un exemple ?
Par exemple, le regard qu'ils peuvent porter sur des textes, on parlait de la cruauté, doit-on montrer la cruauté ? Bon, ça revient toujours, l'histoire de la nudité, surtout dans certaines populations jeunes issues de l'immigration, par exemple, évidemment, mais pas que, mais c'est le regard porté aujourd'hui qui refuse en bloc un certain type de théâtre. Donc c'est très compliqué de déverrouiller, je trouve, et de commencer à travailler sur un espace d'ouverture, comme parfois j'avais travaillé avec des jeunes qui me disaient toujours le théâtre, ça ouvre l'esprit. Et bien, certains spectacles qu'ils voient, j'ai l'impression que ça leur verrouille dans un premier temps les choses. Bon, après, on travaille là, bien sûr. Ben, voilà.
Ils ont quand même des défenses à fleur de peau. Ils ont des défenses à fleur de peau, les ados. Oui. C'est normal. C'est quand même des... C'est Dolto qui disait que c'était des homards sans carapace, ils sont en train de muer.
Oui.
Ils sont fragiles. Alors, du coup, ils sont. Quand on leur parle de nudité, par exemple. Alors qu'ils ne sont pas encore copains avec leur corps. Hein.
Oui, non, mais souvent. Mais
ils n'aiment pas leur corps. Hein.
Alors du mal. Moi, ce qui me questionne beaucoup, c'est que ce sont ce même type de public qui peut regarder des émissions de télé-réalité où il est question aussi de mise en scène et de choses montrées qui vont assez loin, où ils ne sont pas du tout dans la même question. Enfin, voilà,
tu les questionnes, toi, par rapport à ça ?
Oui.
Et alors, tu as quoi comme...
Eh bien, j'ai tout type de réponse, mais j'ai quand même souvent un type de réponse très violent.
Genre,
la fille qui est sur scène, c'est une pute, voilà, ce genre de choses. Mais des choses très fermées, très, très rapides. Ouais.
Mais ça vole pas haut quand même, il y a moyen d'argumenter.
Non, bien sûr, ça vole pas haut. Ça vole pas haut, mais ça nous pose la question de la posture.
Moi, je pense que c'est défensif. Moi, je fais une lecture défensive. Je veux dire, la fille qui est une pute, ça, c'est un truc. Ouais. Défense. Oui, c'est-à-dire c'est quand même le type qui aimerait bien se la faire et qui pense que jamais de sa vie il y arrivera. Hein, parce qu'il ne s'aime pas, parce qu'il trouve moche.
Et... Pas pour les enfants en tête, mais je peux des enfants. Non, mais des fois, c'est... Des fois, j'ai l'impression que j'ai déjà des comportements quand même très... Dans la... Oui, qui peuvent...
Oui, mais c'est pas figé.
Non.
Puis en plus, ils ont la chance d'être.
Pas désespérés.
Puis ils ont la chance de te rencontrer. Puis ils ont la chance de faire du théâtre. Et ils sont en apprentissage. Ils disent la même chose ailleurs. Hein. Mais là, ils sont peut-être dans un cadre où ils peuvent progressivement être amenés à apprivoiser la pensée autour de choses compliquées. C'est ça là, qui est merveilleux, je trouve, non ?
Mais c'est sûr. Mais la question que je me posais, c'est la question de l'évolution. Voilà.
Ah bah, ils vont évoluer forcément. Enfin.
Non, que le public d'aujourd'hui, de cet âge-là, sont vraiment différents pour moi. Voilà. Mais bon, c'est juste une remarque. Hein. J'ai observé. Après, bien sûr qu'on est là aussi pour regarder ça et se transformer avec eux ensemble aussi.
Oui,
bien
oui.
Bien sûr.
Moi, j'y connais rien en ado et en enfant. Mais par contre, je me demande s'il n'y a pas aussi une évolution qui est liée à la configuration économico-politique, entre guillemets, du contexte et de la fabrication de subjectivités, qui sont des subjectivités proprement capitalistes. Et du coup, les outils aussi qui manquent pour arriver à déconstruire le paysage dans lequel on se trouve, parce que ce dont vous parliez, c'est des réactions spontanées, qui sont des réactions qui sont liées à une non-familiarisation avec certains objets, avec certaines thématiques. Et il n'y a pas d'objet culturel en soi qui ne soit pas discriminant, entre guillemets. Il n'y a que des conditions d'accès qui vont favoriser, qui vont donner les outils. Et je pense que le danger du capitalisme libéral, c'est qu'en fait, il nous défait de nos outils. Et c'est ce dont vous parliez, c'est-à-dire qu'au fond, le projet politique, si tant est qu'on puisse parler de projet, sinon de gestion, de la culture aujourd'hui, c'est que le but, c'est plus du tout la question de l'émancipation, c'est celle du lubrifiant social. Ouais. Exactement de la même manière qu'on trouve aujourd'hui dans les entreprises, tout un concept où il faut évacuer les problèmes, on va se tutoyer, on va aller faire du kayak, et ça va rouler, ça va être génial, parce qu'en fait, on produira plus. Parce qu'en réalité, tout ce qui fait, tout ce qui altère et tout ce qui peut être une sorte de grain de sable glissé dans la machine va être évacué. Et je crois vraiment qu'aujourd'hui, le projet politique qu'il y a derrière le capitalisme, c'est celui-là. C'est celui dont parlait Marie-Jo, c'est la consolation et c'est le lubrifiant social. Et pas seulement le pansement, comme on entend parfois.
On est en avant et c'est ça qu'on observe déjà. Aujourd'hui, c'est ça que je parle.
La vocation de l'art, c'est de lutter contre les conditionnements de toutes sortes.
Oui, oui.
Enfin, la vocation de l'enseignement, même en général.
C'est ça que je souhaite.
Moi, il y a 20 ans, jamais j'aurais imaginé qu'une fille de l'amphi de première année de psycho vienne sur l'estrade à la fin du cours me poser la question suivante, alors que je viens de faire un cours sur le développement psycho-affectif, la sexualité, tout ça. Et elle me pose la question, mais alors, si j'ai bien compris, d'après ce que vous venez de dire, je dois comprendre que l'homosexualité, ça s'attrape pas. Et la jeune fille en question, elle est voilée, elle porte tout le machin là, voilà, tout le truc pour cacher son corps. Et alors moi, j'ai eu un moment, je venais de terminer le cours, j'ai eu un moment, je dis, est-ce que j'ai bien entendu? Et en fait, je la regarde, elle avait ses grands yeux ouverts, elle me regardait comme ça. J'ai été interloquée, hein, vraiment. Hein. Ça, jamais cette question-là n'est venue. Depuis 20 ans que j'enseigne, c'est jamais arrivé, ça. Surtout après un cours freudien sur le truc psycho-affectif, le complexe d'Oedipe et tout le machin. C'est jamais arrivé. Et je me suis dit, après coup, si ça peut t'aider dans ton truc, c'est pas le même cadre, mais tu vois, je me suis dit, après coup, c'est super qu'elle soit venue me poser la question.
Non, mais je parle pas, je suis en
difficulté. Parce que
ça, hein.
Je me dis, mince,
bien sûr. Je constate juste toujours.
Ouais. Moi, c'est, mais c'est là que tu as une place importante.
C'est ça, oui, bien sûr.
Ah ouais.
Je peux pas m'en empêcher parce que Béziers, c'est tout le contraste de tout ce dont vous venez parler. C'est-à-dire que je vis une chose en cours avec des élèves et en fait, je parle tout le temps de savoir-être, de qui vous êtes, de voilà, comment on échange, comment on existe ensemble. Et puis alors, vous avez, depuis que M. Ménard est là, vous avez tous les panneaux publicitaires de la ville qui sont occupés par les publicités de M. le maire. Et on a, donc je vous en donne trois exemples, mais il y a eu donc en anglais la fiche publicitaire avec le bel avion. Alors, les photos sont, se croiraient dans les années soviétiques. C'est un pitch d'un mauvais goût. Enfin, franchement, c'est quand même vraiment au 20e siècle. Les photos pareilles ne pourraient pas exister. Alors, welcome to Languedoc-Roussillon. With Béziers and the airport. Sorry, Montpellier. C'est-à-dire qu'il affiche en plus. Il affiche en plus ses propres névroses, c'est-à-dire que tu as besoin de te comparer avec qui, avec quoi. Et alors ensuite, la dernière chose, c'est qu'il a invité un écrivain, je n'ai pas retenu le nom, et donc le titre, je disais à Marie-Josée, le titre, c'était, il y avait écrit donc, sur les grosses affiches, « Le génocide annoncé ». Et l'affiche, donc la dernière affiche, c'était les musiques militaires gratuites, avec la photo d'un militaire comme ça, qui disait donc gratuit sur les allées Paul Riquet. Donc là, on parle d'une chose, et en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il génère de la peur. C'est quoi un génocide? C'est quoi de la musique militaire? C'est quoi? Donc on essaie de construire un monde, et en fait, les campagnes publicitaires, tout travaille dans votre sens.
Donc vous vous sentez en résistance?
Oui, donc en fait, même depuis que M. Ménard est là, je sens, que mon rôle est essentiel.
Absolument. Ah, oui.
Oui, mais en tant que fonctionnaire, tu as donc un devoir de réserve.
Non, non, pas contre. Elle a un devoir de ruse. Il faut qu'elle ruse.
Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle, d'autres envies de... C'est bien qu'on ait quelqu'un de Béziers par rapport à ce sujet. Oui, deux personnes. Oui.
Moi, je crois quand même qu'il ne faut pas désespérer, en effet. Hein, de... Parce que ça me touche ce que vous dites sur le... sur le, la réaction des jeunes, et je pense quand même qu'il faut... Non pas que vous désespériez, hein, je ne sais pas ça, mais ça donne à réfléchir. C'est vrai qu'on ne mesure pas à quel point... On doit appréhender à quel point, par ailleurs, en effet, pour eux, toute la subjectivité est prise comme ça dans une espèce de... Comment dire, j'en sors, là, j'ai discuté avec des jeunes avec qui j'ai fait cette pièce, là, qui étaient vraiment les jeunes les plus intérieurs au monde, en fait, c'est-à-dire vraiment les jeunes de banlieue... qui sont des petits frimeurs, bon, etc., qui font du petit deal, enfin bon. Et qui sont comme ça complètement convaincus que la seule chose qu'ils ont à vivre sont des expériences dégradées, qui habitent la honte, la perte de l'estime de soi, comme la donne même du monde, comme ce qu'il aurait donné du monde. Donc quand on parle avec eux d'amour, de sexualité, c'est la première chose qu'ils disent, c'est de toute façon, ça n'existe pas ce que tu nous racontes, Marie-Jo. Quand bien même on voudrait rencontrer une fille, il y en avait un qui me disait, moi, quand je demande à une fille si elle veut prendre, je sais pas quoi, passer une soirée avec moi aux chandelles, je me prends une pelle, un râteau, c'est Jardiland, enfin bon, des choses comme ça. Mais du coup, ils finissent par dire qu'en effet, ils regardent des films porno, etc., mais non pas... Et non pas qu'ils en éprouvent une joie, mais plutôt pour continuer à se conforter dans l'idée que ce qui leur est donné en partage, c'est la honte, la dégradation, etc.
La frustration.
La frustration, etc. Et donc ils sont très conscients par ailleurs, parce que tout ça est très complexe, enfin l'intelligence est déployée. Hein. Donc je pense qu'en effet, quand a lieu le spectacle vivant, etc., c'est l'occasion ou jamais de verbaliser, de se demander est-ce que c'est vraiment ça qui m'est proposé, quelle est la fonction de ça, pourquoi font-ils ça, est-ce que c'est pas un nouveau jeu de dupes, enfin, je pense qu'ils... Donc,
non, mais ouais. Ça c'est certain, ils ont en plus une capacité de métamorphose assez rapide,
ouais.
C'est ça aussi. Très merveilleux.
Et c'est vrai que ça va très vite en fait. C'est vrai que la gratification est là tout de suite, dès que les lieux sont constitués pour parler, etc. Quand les gens ne sont pas totalement dévastés, très vite on s'aperçoit qu'on arrive à établir un espace de paix, de joie, d'intelligence, d'humour en plus. Ouais, c'est vrai. Ouais.
Il y a pas de désespoir.
Non, je ne disais pas que vous étiez désespérée, mais je me disais, c'est vrai que c'est très touchant, c'est très impressionnant aujourd'hui, mais ce qui est impressionnant aussi, c'est quand même de vérifier à quel point la possibilité est là, la capacité est là, et du coup, en effet, la tâche à accomplir, sa légitimité, enfin, ça, c'est là quand même, à hauteur de ce qui est... Ouais. Ouais.
Je voulais juste témoigner que j'enseigne à Fréjus et que le directeur de la petite école de musique et d'art dramatique dans laquelle j'enseigne va donner son congé cette année, volontairement. Il y a eu un appel d'offres qui s'est fait absolument dans les règles de l'art et que pendant qu'ils étaient en train de recevoir les candidats, le président de l'association est allé dans un rendez-vous avec le maire qui lui a dit très nettement celui-ci est le candidat de la mairie et je vous demande qu'il soit le futur directeur de l'école. Alors, ce monsieur, qui a sa carte FN, est professeur de guitare, il a le DE, mais enfin, il n'a pas les compétences ni les diplômes pour être directeur. Alors, heureusement, l'école dit qu'il n'est pas compétent. Néanmoins, il dit, écoutez, c'est très simple, la mairie donne tant de subventions et peut-être que la mairie n'aura plus tant de subventions à donner si la personne que nous vous proposons n'est pas intégrée, acceptée, je ne sais pas comment on dit. Pour l'instant, l'école de, les instances de notre école nous ont demandé de ne pas avertir le monde, le canard enchaîné, parce que ça pourrait être une terreur, c'est-à-dire foutre 30 personnes au chômage, hein, tous les enseignants de musique. Je ne sais pas, ils ont décidé de nommer un des professeurs qui avait candidaté pour le poste de directeur. Il a été question de faire une nomination conjointe. Alors, tout est envisagé. Donc, on est très très mal. Voilà, ça c'est au niveau institutionnel et politique. Et par ailleurs, pour la première fois de ma vie, j'ai fait dire merde à une élève sur scène.
Et voilà.
Et il y a des petits, des moyens et des grands. Et une adulte de ma classe a dit le mot merde. J'ai reçu un mail 3 jours après en me disant que c'était un peu.
Posé.
Non, c'était malvenu. Les enfants avaient été choqués. Et elle avait été blessée, qu'elle avait entendu beaucoup de gens dire que c'était pas possible. Et puis, j'ai croisé le directeur qui m'a à la bonne, disons, le directeur actuel, et qui m'a dit « Anne, quand même, j'ai entendu beaucoup de retours sur ce merde qui a été fait. »
Madame.
Et je comprends avec vous. Vous êtes ma première professeure de théâtre, je l'ai écouté, vous êtes mon premier directeur. Je comprends avec vous que le théâtre s'expose beaucoup plus et le conseil sincère et amical que m'a donné celui qui ne sera plus le directeur de mon école, c'est à nous protéger.
Mais je crains que les exemples ne soient pas réservés aux municipalités du Front National. En tête, ils se multiplient, quel que soit le bord des politiques, par rapport à la pression des électeurs, du bien penser pour ne pas faire de vagues. Moi, je l'ai entendu dans d'autres municipalités, je ne savais pas imaginer. Et c'est vrai pour les petits mots, et c'est vrai pour les gros mots, et c'est vrai pour les thèmes qui s'emploient. Et c'est vrai pour les répertoires. Donc cette intrusion du politique et du bien-pensant, ne pensez pas que c'est uniquement un préjugé.
Oui. Non, je crois que...
Tout à fait.
Oui, Marie.
Oui, juste pour conclure, pour ma chancelle, on conserve la part de nous. Mon directeur qui est arrivé un an avant, me dit quand même, Madame Lézière, pour des jeunes, franchement, et du classique, parce que vous savez, Zuko, quand même, c'est un classique du contemporain. Ah, mais quand même, vous pourriez faire d'autres choses. Bon, voilà, d'accord. Parce que la violence, comme ça, ce n'est pas possible. Donc, ensuite, Denise Bonal, ma collègue, Aïssine Moulineau, elle travaille sur les deux. Vous parlez d'avortement, dans les papiers du justement, avortement. Les parents sont venus la trouver et sont allés trouver le directeur en disant si mon enfant doit parler d'avortement, on va le retirer. Et j'en passe. Et Brecht, que j'ai abordé il y a 2 ans, alors ça on n'en parle pas, c'est fini quoi. Enfin, on m'a bien fait comprendre qu'il fallait que ce soit fini. Donc c'est simplement de la droite. Normal. Voilà, c'est même pas. On en est là, quoi. Alors après, moi, quand on parlait de résistance, ce que je voudrais dire, c'est qu'après, on n'a pas le droit après, on va ailleurs. Voilà, je pense qu'on se retourne. Pour autant, on a fait Richter hein, cette année, on a fait venir à nos corps. Après, ça sera plus Richter, ça sera un autre. On quand même, on garde totale liberté, rassurez-vous, avec ma collègue. Moi, il faut arriver à contourner les obstacles. Voilà.
Je remercie pour ces témoignages qui peut-être... Ah oui, excuse-moi.
Moi, je voudrais juste dire qu'en fait, on disait hier, vous disiez, il y a sûrement plein de choses à inventer.
Et si l'art, c'est pas l'endroit de la résistance, parce que ce merde, là, il me fait beaucoup penser au merdre de merde du but. Donc s'il y a un lieu où on peut justement s'exprimer et trouver la libération dont on parlait tout à l'heure, c'est bien là.
D'ailleurs, s'il y a un lieu où on se dit merde, c'est bien au théâtre. Et, mais ce témoignage, on rit sur ces choses-là, mais je crois que c'est vraiment très grave, au sens où du coup les places, les postes, les positions sont prises en main. On avait parlé aussi des bibliothécaires, donc relisons les cinq manières d'écrire la ruse. C'est vraiment important. Et je remercie donc, il faut que nous arrêtions. Mais je trouve la définition qui a été redite m'a été très éclairante pour moi sur le peuple, comme vraiment Aristide Briand, Firmin Gémier, donc j'imagine le côté émancipateur, et l'autre vision vraiment consommateur, etc. Élitisme, avant que nous ait reproché par les conservatoires, on est en plein dedans, mais il nous semble très 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 important. C'est pour ça qu'on voulait aussi faire toutes ces journées.
Est-ce qu'on pourrait rajouter quand même que c'est assez nouveau et que c'est quelque chose. Enfin, je dirais on parle d'un sujet qui est en train de monter et qui est assez nouveau, quoi, en fait.
Mais absolument, la censure a disparu à la Troisième République. Elle revient, je ne sais pas comment aujourd'hui, mais elle est là. C'est une manière.